France Inter présente David Bowie, Station to Station. Une réédition spéciale de l'album mythique Station to Station et le concert inédit live Nassau Coliseum 1976. Retrouvez David Bowie, Station to Station, dans l'émission Pop etc. de Vali le samedi 2 octobre à 1h.
France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Allô, bonjour, salut Daniel, merci à toute l'équipe pour là-bas si j'y suis. Grâce à vous, plus de linge à repasser en retard, plus de vitres qui attendent d'être faites, ma maison est nickel. J'écoute l'émission là-bas si j'y suis et tant pis pour le téléphone qui sonne ou l'ami qui arrive, pas le choix, ou on écoute avec moi ou on repart. C'est René, 71 ans, qui sera dans les rues de Nantes samedi avec d'autres copines. Bonsoir Daniel. Femme, bientôt 50 ans, au chômage depuis un an et demi, j'ai trouvé début juillet un emploi saisonnier. 4 mois à la plonge d'un restaurant. Super, me direz-vous. Eh bien non. 1021 euros par mois, soit 60 euros de plus qu'au chômage, à trimer comme une malade. Les conditions de travail étant ce qu'elles sont dans la restauration, c'est-à-dire un travail de forçat pour un salaire de misère. Maintenant, faisons un rapide calcul. 1021 euros moins 120 euros de frais de route, eh oui. Je me retrouve avec moins de revenus qu'en étant resté sagement à la maison à profiter, entre guillemets bien sûr, des acédiques. Et incohérente de notre système, oh oui encore une, je reçois ce matin au courrier cette bonne nouvelle. Vu que j'ai retrouvé un emploi, on me supprime l'APL. Je n'ai plus le droit de percevoir l'allocation logement. Et il faut que je rembourse 400 euros de trop perçu. Ça, plus les impôts locaux qui arrivent, ça fait plus de 1000 euros à trouver avant la fin de l'année. Déjà que j'ai du mal à vivre, même en faisant impasse sur la santé, les loisirs et les vêtements, je m'endette un peu plus chaque mois. J'avoue, non sans honte, que pour manger, il m'arrive régulièrement de faire, en douce, les poubelles du restaurant. Bon voilà, je glisse doucement vers la rue, bientôt une SDF de plus en France, et je ne pourrai même pas profiter d'un de ces beaux charters apprêtés si gentiment par notre cher président pour retourner dans mon pays, vu que j'y suis déjà dans mon pays. Alors pour finir, vive la France, ce beau pays où tout est mis en œuvre pour nous décourager de travailler.
Salut Daniel, c'est Clément de Lyon. Je suis étudiant en sciences politiques, pas Sciences Po, l'école qui t'apprend à devenir président, mais à l'université Lyon 2, en sciences politiques, où l'on t'apprend comment on a fabriqué un président, un État, ou pourquoi il y a des militants et des mobilisations. D'ailleurs, j'ai un cours qui t'intéresserait beaucoup cette année, ainsi que de nombreux auditeurs, un cours qui s'appelle Mobilisation collective. Et dans le cadre de ce cours, j'ai mené une étude sur la réforme des retraites, et pour compliquer un peu les choses, je me suis intéressé aux manifestants de droite. Alors, je peux te dire que je n'ai pas été déçu. J'ai manifesté avec la droite, ouais, pas la droite gentille, François Bayrou, mais la droite pure et dure. Je pense notamment à un homme qui me disait n'avoir manifesté que 2 fois dans sa vie. Une fois contre mai 68 et l'autre fois contre les 35 heures. Alors je me disais que notre grand pas tous ne veuille pas écouter des gauchistes comme nous, ce n'est pas si étonnant. Il nous a habitués. Il est en train de se mettre une bonne partie de son électorat à dos, qui était dans les manifestations de jeudi dernier, quelque part entre la CGT et FO, et qui prouve bien, si toutefois il est encore nécessaire de le prouver, que cette réforme est profondément injuste. En tout cas, merci pour ton émission, c'est une vraie bouffée d'oxygène entre 15h et 16h. À bientôt.
Je suis en train d'écouter les informations ce matin sur Inter avec les histoires de notre Chirac qui a détourné moult d'argent avec des emplois fictifs et qui donc va s'arranger à l'amiable. Et puis en même temps, coïncidence, je suis en train de lire à côté une nouvelle sur Rue 89 où je vois que certains Adrian s'est pris 3 mois de prison ferme en premier jugement pour avoir escroqué en fait des passants dans une ville du Nord en se faisant passer pour un sourd-muet pour la modique somme de 15 euros, donc 3 mois de prison et puis pas de procès. L'un est Rome, l'autre est président.
Et oui, bonjour à tous, c'est Romain du repère de Beauvais sur Tesco. C'est juste pour rappeler aux AMG de Beauvais que notre repère du 1er octobre débutera à 20h. On y parlera de la propriété, non pas pour la critiquer ou la combattre, mais pour essayer de saisir le changement qu'elle a induit dans nos sociétés au cours des siècles passés. On pourra aussi réfléchir à pourquoi tous les gouvernements que j'ai connus ont facilité l'accession à la propriété. N'était-ce pas un bon moyen de pression, ou n'est-ce pas toujours un bon moyen de pression pour pousser le plus grand nombre dans un sens pas forcément meilleur que les autres? Bon, à vendredi.
Oui, bonjour Daniel et bonjour à l'équipe de là-bas si j'y suis. C'est Jacqueline d'Embrun.
Voilà. J'ai entendu cet après-midi le message de votre auditeur qui disait que Bernard Accoyer ne voulait pas que l'on touche à la retraite des parlementaires. Alors, je trouve que c'est complètement inadmissible de sa part, alors que les femmes les plus fragiles vont devoir travailler jusqu'à 67 ans si la loi est votée par les mêmes parlementaires. Hein. Je suis très choquée de ne pas entendre les socialistes et les partis de gauche remettre en cause haut et fort ce privilège de retraite des parlementaires, alors que les travailleurs vont devoir travailler plus longtemps pour avoir une retraite de misère. Et j'espère que tous les syndicats vont faire bloc pour dénoncer les propos de M. Accoyer. Voilà. Il y en a marre des privilèges. Il y en a marre. À samedi pour la manif.
À samedi pour la manif, effectivement, il y en a marre. Des privilèges. Et on va continuer aujourd'hui justement avec les privilèges. Qui s'entretiennent comment les privilèges? Eh bien notamment, j'ai couru à travers les couloirs, hein, je vous avoue. Comment s'entretiennent les privilèges? Notamment à travers la fiscalité, notamment à travers les impôts que certains payent et d'autres ne payent pas. Et ça tombe bien, c'est le deuxième volet de notre reportage, enquête, dossier sur la fiscalité, sur les impôts dans notre pays. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le budget 2011 qui est en jeu à l'Assemblée nationale et dans les médias. Priorité à la maîtrise des dépenses, hausse d'impôts partiels. Alors, quels impôts seront augmentés? Lesquels? Qui ça touchera? Est-ce que c'est tous les impôts? Est-ce que c'est l'impôt direct? Est-ce que ce sont les impôts sur la consommation? Les cotisations diverses et variées? Les impôts sur les patrimoines, etc. Tout ça, c'est assez compliqué, c'est assez rébarbatif. Sauf que ça vous a bien plu hier, la façon dont nous avons tenté d'aborder cette énorme question, qui est une question essentiellement politique, parce que c'est à travers la fiscalité que les idées, parce qu'il s'agit d'idées politiques, se mettent en œuvre jusqu'à notre vie quotidienne, jusqu'à notre porte-monnaie, jusqu'au moindre moment de notre vie. C'est notre sujet du jour. Avec François Ruffin, bien sûr. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Une petite information pour vous dire que le mardi 27 septembre s'est tenue à Châlons-en-Champagne au lycée Jean Talon une petite manifestation composée d'élèves et puis d'adultes, de professeurs, pour venir en soutien à la famille Aslican qui est menacée d'expulsion. On en parle moins parce qu'aujourd'hui, les Roms font un petit peu plus l'actualité, mais on continue quand même à menacer d'expulsion des familles qui sont complètement intégrées à la vie de la ville, qui participent à associations, les élèves sont brillants. On ne peut leur reprocher que d'être d'origine arménienne, si on veut. Voilà, donc les élèves et les profs les soutiennent et on attend maintenant la décision du préfet. On se tiendra au courant.
Cher auditeur modeste et génial, bonjour. Franck Lepage et son équipe du pavé, que tu as pu entendre sur les ondes le 16 juin dernier lors d'une émission sur l'éducation populaire, seront dans le Grand Nord du 12 au 15 octobre prochain. Plusieurs associations d'origine diverse, éducation, agriculture, milieu rural, droit, etc., mais rassemblées autour des valeurs de l'éducation populaire, accueillent 4 de leurs spectacles et autres contes politiques et récits non autorisés. Si toi aussi tu as raté ton ascension sociale, tu aimerais travailler moins pour gagner plus, tu ne comprends pas pourquoi l'éducation populaire, ils n'en veulent pas, alors oublie ta télé et viens découvrir les spectacles de la coopérative d'éducation populaire du pavé qui te racontera les autres histoires du travail, de l'éducation et de la culture. Rendez-vous les 12, 13, 14 et 15 octobre à Lille, Roubaix et Fressin pour échanger, partager et rêver avec nous et aiguiser ta vision critique du monde. Renseignements au 03 20 744 383 ou npdc@terredelien.org. À bientôt.
Salut Daniel, salut à tous. On appelle pour lancer une invitation à Saint-Étienne-Vallée-Française dans les Cévennes losériennes où on se bat en ce moment pour éviter la fermeture de la troisième classe de l'école publique. Bien sûr, ici comme ailleurs, l'éducation nationale relève les effectifs de toutes les classes et en fermer une en milieu rural, c'est assez simple puisque nous sommes peu nombreux. Depuis la rentrée, les parents sont ici très mobilisés et samedi, on propose à tous de venir à notre grande journée intitulée « Qui a eu cette idée folle un jour de saborder l'école ?»
Oui, bonjour, voilà, c'est Mathieu de Toulouse. Donc j'appelais pour vous signaler un très très bon bouquin qui pourrait vous intéresser, je pense. C'est Jean Jaurès, la CGT, le syndicalisme révolutionnaire et la question sociale, écrit par Alain Bouscus et publié par l'Institut régional d'histoire CGT de Midi-Pyrénées. Jean Jaurès étant quelqu'un qui a énormément écrit, énormément parlé, fait énormément de choses, on peut en prendre et en jeter à peu près autant qu'on veut pour lui faire dire à peu près ce qu'on veut. Voilà, ce qui est bien avec ce livre, c'est que ça remet Jean Jaurès dans son... Ça le recadre dans son parcours, dans son évolution intellectuelle et qui est parallèle à l'évolution du mouvement syndical en France. Voilà.
Salut à tous les auditeurs modestes et géniaux d'Alès et de sa région, Langar. Après la trêve estivale, le Café Repère redémarre ce mercredi 29 septembre à 19h au Vintage Bike Café, route du pont de Grabieux face à Monsieur Meuble. L'actualité, oh combien riche, nous donne du grain à moudre. Alors, à ce soir.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe. Voilà, petit message pour un appel à manifestation le 1er octobre, le vendredi à 14h. Donc vendredi 1er octobre, 14h, à la station Nogent-le-Perreux, sur la ligne E du RER, en soutien à Abdelmalik Benhamed, qui est menacé d'expulsion de son appartement. Malik Benhamed est un ancien du MIB, un médiateur, et donc il est intervenu sans relâche pour rendre service, apaiser les conflits, arranger les choses entre les voisins. Et il est menacé d'expulsion de son appartement, dans lequel il était en colocation, le colocataire est parti, il est resté seul et a assumé tous les loyers, et donc il a payé tous les loyers remis sur l'ongle. Et la société, le bailleur social, la société Batigère, pour prétexte du fait que le bail n'était pas au nom de Malik pour récupérer son logement et le remettre en location. Et donc Malik va se retrouver à la rue. Donc voilà, on demande un petit peu de soutien et du monde à la manif. À très bientôt à tous.
Excusez-moi, vous pouvez dire à votre collègue que j'ai terminé de consulter les documents fiscaux. Tous les documents sur la fiscalité. Donc elle peut les renvoyer. Voilà, elle peut renvoyer tout ce qui est fiscalité. Je vous remercie beaucoup. Bon, allez, Daniel, je sors de la doc de Radio France où j'avais fait venir 6 cartons sur la fiscalité depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Comme quoi, on sait s'amuser à la Bastille, j'y suis. Qu'est-ce que ça apporte de consulter des tas d'archives au fil des coupures de presse? On voit la phobie de l'impôt naître au milieu des années 80. La France, médaille d'argent, des prélèvements obligatoires, c'est dénoncé, la pression fiscale excessive. On va sortir du bâtiment pour rejoindre France Inter. Hop, parce que France Inter n'est pas à l'intérieur de la maison ronde. On sort de la maison ronde. Dans le monde, sinon, à la même époque, en 1984, on a des économistes qui plaident carrément pour la suppression de l'impôt sur le revenu. Salut Mohamed. Ça va? Et toi Mohamed le Biffin, là je fais un sujet sur les impôts.
Sur les impôts?
Ouais, ça va, t'es pas trop taxé quand...
Taxé sur quoi?
Bah je sais pas, là je vois que t'as ramassé dans la rue la literie.
Non, ça on me l'a donné, ça, j'ai pas ramassé.
Et en dessous, c'est quoi?
En dessous, c'est la poubelle, comme d'habitude.
Et la pression fiscale est...
C'est quoi, la pression fiscale? De quoi tu me parles, là?
Tes impôts sur les revenus.
Les impôts, quels revenus?
L'impôt sur les sociétés.
Je touche même plus de RMI, mon frère, je touche rien.
Donc ça va, toi tu te plains pas trop des impôts?
De quoi tu me parles là? Je suis SDF moi, y a pas d'impôts, tu le sais bien.
Pas d'impôt foncier?
Pas de. C'est quoi impôt foncier?
Taxe d'habitation?
J'ai pas de maison. Tu veux que j'habite dehors et j'ai payé le truc de truc là? Ah tu me rends fou là de bon matin là.
Toi t'as trouvé la solution contre les impôts, hein. Pas de boulot, pas de logement.
Bonjour. Pas de boulot, pas de logement. Ah c'est la vie.
Bon, ben je vais au boulot.
Bah, il faut aller voir l'autre, là, Boutoncourt, là. Boutoncourt, là, la milliardaire. Elle, il faut qu'elle paye les impôts. Non? L'impôt sur la fortune. Bon courage.
Salut. Ah voilà, Mohamed Le Biffin, entre la maison, la radio et France Inter, a trouvé la solution contre les impôts. Pas de logement, pas de travail. Et sinon, je disais, dans les années 80, donc il y a toute cette phobie de l'impôt qui naît, et elle est suivie d'effet parce que vont s'engager des grands plans d'allègement. Alors, il y a d'abord Delors en 84 qui annonce 65 milliards d'impôts au moins l'an prochain. Ensuite, on a Édouard Balladur en 87 qui annonce qu'il va réduire les impôts de 22 milliards. Alain Juppé, qui est le ministre du budget en 87 toujours, il surenchérit sur son propre ministre de l'économie et il annonce 27 milliards. Et puis l'année d'après, François Mitterrand, qui est réélu, annonce un plan de 28 milliards. Bérégovoy va arriver aux affaires et va annoncer 12 milliards de plus. Donc là, on voit qu'on est dans une concurrence. Il y a eu une pression idéologique d'abord, qui est devenue une réalité politique. Et c'est dans ces années-là aussi, dans ces années 80, qu'on voit naître où se multiplient déjà les niches fiscales. Bonjour. On rentre en France Inter, il y a le fumeur devant la porte. On va monter au cinquième au bureau. C'est dans ces années 80 donc qu'apparaissent, se multiplient les niches fiscales. On a le Figaro qui titre « Comment réduire ses impôts, acheter votre résidence principale à crédit, profiter de la déduction meignerie. »
Qu'est-ce que c'est que cet équipement?
Je viens d'aller dépouiller 6 cartons d'archives sur la fiscalité depuis les années 70 pour Monsieur Daniel.
C'est bien.
Ça va être l'éclat total, quoi.
Eh ouais, c'est Monsieur Daniel et c'est la Bassie. J'y suis avec François Ruffin. Vive les impôts! Fiscalité, la fabrique de l'inégalité. Flight number 2, arriving from
New York. Bon, Daniel, je pourrais aller à l'autre bout de la France hein, pour illustrer ce reportage. Je pourrais aller me balader à Marseille. Tiens, il ferait beau. Tandis que là, à Amiens, il fait toujours un temps gris. J'aurais pu aller me balader à Marseille, à Toulon, à Nice, aller chercher le soleil au loin. Ça aurait coûté des frais de reportage à l'émission, à la radio. Déjà que chez nous aussi, il y a des restrictions de budget. Comme je pense que mon sujet, là, il peut s'illustrer n'importe où. Juste aller en reportage à côté de chez moi, dans un lycée. On est le 6 septembre et tu sais que dès la rentrée, il y a une grève des profs. Voilà, je suis à vélo, vers le lycée Montaigne, lycée Delambre, au-dessus de chez moi à Amiens.
Quel rapport, direz-vous, quel lien peut-il bien exister entre ces profs en grève dans un lycée d'Amiens et notre sujet du jour, à savoir les impôts et la fiscalité? Ben, c'est ce que nous allons essayer de démontrer. De démontrer en ce jour où le budget est en pourparlers. Vous avez entendu notre François Ruffin, le scrupule qu'il a ce qui concerne les dépenses de cette émission, les dépenses concernant Radio France. Et bien Radio France va nous fournir un excellent exemple de fiscalité. Oui, il y a les impôts, il y a les taxes, il y a les cotisations et puis il y a la redevance. La redevance qui, chaque année, permet de financer l'audiovisuel public. Chacun des propriétaires d'un téléviseur est taxé à hauteur de 120 euros, à peu près 120 euros chaque année. Très bien. Le total de cette redevance rapporte 2 milliards d'euros avec lesquels on finance, vous le savez, la télévision, Arte, etc. Il y a un quart de ce budget qui revient à Radio France. C'est le budget annuel de Radio France. Environ 500 millions d'euros chacun. Qu'est-ce qu'on fait de ces 500 millions d'euros chacun que chacun d'entre vous, d'entre nous, payons? Avec ces 500 millions, Eh bien, d'abord, il y a 4300, 4500 salariés dans cette noble maison. Donc, voilà une entreprise et des salaires, d'abord. Et puis ensuite, ces 500 millions d'euros permettent de réaliser sept chaînes de radio, deux orchestres, des chœurs, une maîtrise, etc. Si bien que combien ça vous coûte tout ça, hein? Combien ça coûte de part à chacun d'entre nous? Eh bien, j'ai fait des calculs. Si on considère qu'on a environ au total, sur l'ensemble de nos radios, les 7 radios de Radio France, environ 13 millions d'auditeurs au total, eh bien, ça fait 30 euros à peu près par auditeur par an. Voilà ce que vous coûte ces 7 chaînes de radio qui émettent en permanence, qui produisent 24 heures de programmes et d'informations chaque jour. Alors vous me dites, ah mais attendez, 30 euros c'est pour ceux qui écoutent, mais il y a ceux qui payent la redevance et qui n'écoutent pas. Très bien, alors ceux-là, ça leur coûte 38 euros en moyenne. Vous me suivez toujours? Par an, c'est-à-dire 3,15 euros par mois pour avoir tout ça, c'est-à-dire 10 centimes d'euros par jour, 10 centimes d'euros par jour, et pas, je parle que de ceux qui payent la redevance, vous me suivez toujours? C'est-à-dire que France Inter vous coûte 1 centime d'euros par jour, et qu'il faudrait diviser 1 centime d'euros par jour par 24 émissions, hein, 24 tranches horaires, pour avoir une idée de ce que coûte une émission comme La Passe, si j'y suis. C'est-à-dire que ça vous coûte quasiment rien, et ça veut dire que nous ne valons à peu près rien du tout. Intéressant, non? Intéressant de voir comment fonctionne l'impôt. Eh bien, cet impôt n'est pas juste. Et non, il n'est pas juste, parce que tous ceux qui payent la redevance payent la même redevance, 120 euros par mois, par an, pardon, 120 euros par mois, par an. Donc ça fait, bon, pour ceux qui gagnent normalement leur vie, bien leur vie, c'est pas beaucoup, 120 euros. Mais pour ceux qui font partie des 8 millions de Français dont nous parlions hier et qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est une somme rondelette. Et là, on trouve une philosophie des impôts qui est celle soit d'un impôt progressif qui suit les revenus de chacun, ou bien un impôt imposé à tous de la même façon, qui est un impôt injuste. C'est-à-dire que Madame Bettencourt paye la même redevance que quelqu'un qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça n'est pas juste. On voit bien tout de suite comment on peut génialement financer une entreprise géniale, bien sûr, et modeste, comme Radio France, mais on peut le faire d'une façon juste ou non. Voilà, c'est ça l'impôt. Et on va voir avec François Ruffin, aujourd'hui, comment est née cette impôt-phobie. Et on va en avoir un exemple tout de suite dans cette première chanson. C'est là-bas si j'y suis, c'est « Vive les impôts, fiscalité, la fabrique de l'inégalité ».
Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes madeleines, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, c'est nous. Le bingo, c'est nous. Le tiercé, le quarté, le quinté, c'est encore nous. Le quinté plus. On te reçut, faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignette et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto. Droit d'immatriculation, PV, crash, essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, on est là à tous les étages.
Donc là, on est devant le lycée Delambre Montaigne.
Ouais.
Donc ça, c'est l'intersyndicale, alors là. Voilà. Alors, d'abord, bravo. Vous êtes à peine rentré, vous faites déjà grève, quoi.
Oui, oui, à peine rentré, déjà grève. Mais là, il s'agit de protester contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale en général, mais plus particulièrement en Picardie.
Voilà, 16 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale cette année, 34 000 suppressions de postes en 3 ans, remplacement des titulaires par des stagiaires, tout ça s'inscrit dans la politique de dérégulation des services publics. Et on est devant ce lycée à Amiens avec ses enseignants qui manifestent et qui protestent. Quel lien entre quelqu'un comme Pierre Bérégovoy et le lycée Montaigne d'Amiens? Question.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme suppression de poste alors?
Alors, en Picardie, entre 2005, entre la rentrée 2005 et la rentrée 2009, il y a eu exactement 1675 suppressions de postes, ce qui représente plus de 12% de suppressions de postes en 5 ans. 12% de suppressions de postes dans le second degré dans l'éducation nationale en Picardie en 5 ans.
On a dégraissé le mammouth ?
On a dégraissé le mammouth de 12% en Picardie, oui.
Je voudrais juste rajouter concrètement ce qui peut se passer pour nous dans les classes. Là, on vient d'apprendre, par exemple, il y a 2 jours, qu'on a un demi-poste de surveillant en moins au lycée. Et après, on nous reparle de la sécurité pour les élèves à l'intérieur du lycée, ce genre de choses.
Et mon compagnon qui bosse en SECPA, il se retrouve avec des classes de SECPA. Donc les SECPA, hein, c'est les enfants qui ne suivent pas le cursus, la classe, comment ils disent ça,
classique.
Parce qu'ils ont des difficultés, etc. Donc ils ont des instits en phase 2 et puis ils apprennent un métier. Et ils sont montés là à 16, 17, 18, 19 cette année, alors que c'est des enfants pas faciles à gérer, quoi, souvent, qui sont en rupture de scolarité, etc. Parce qu'il y a eu regroupement, Rimbaud. Enfin voilà, encore suppression de postes, regroupement, rationalisation des moyens, quoi. Ça veut dire des conditions de travail toute l'année qui vont vraiment être plus compliquées pour les enfants comme pour les instituts, quoi.
Enfin, et avant, ils étaient à combien en SECPA ?
Bah, ils étaient un peu moins, ils étaient 12, 13, ça a l'air de rien, mais 3-4 élèves difficiles, c'est compliqué à gérer, quoi.
Attendez, j'ai une citation de Sarkozy qui dit, alors je sais pas faire les haussements d'épaule comme lui, hein, vous me pardonnerez. Nous avons diminué le poste de fonctionnaire dans notre pays comme jamais. Nous avons supprimé 100 000 postes de fonctionnaires en 3 ans. Dans le budget 2011, nous en supprimerons encore 34 000. La France ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Et la phrase d'après est dit « Augmenter les impôts, je m'y refuse totalement ». Est-ce que vous voyez un lien entre ce raisonnement et votre situation d'enseignant ?
Je réfléchis, ça.
Le lien, je le vois bien, c'est pas compliqué, les impôts, c'est ce qui paye effectivement les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est les infirmières, c'est les profs, c'est les gardiens de prison, c'est tous les fonctionnaires, donc qui ont une utilité. Donc à partir du moment où on n'augmente pas les impôts ou qu'on les baisse, forcément, on a moins de fonctionnaires. Donc ça veut dire que c'est un choix de société. Hein, là, dans cette société-là, c'est ceux qui ont de l'argent, bah, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et puis ceux qui n'ont pas d'argent, bah, ils font très peu. C'est pas plus compliqué. Enfin, moi, je le vois comme ça.
Vous êtes prof d'éco.
Ouais.
Ouais.
Oui.
Et alors, est-ce que vous dites que c'est la faute à Bérégovoy ?
Bérégovoy, c'est vieux, ça. Hein. Qu'est-ce que vous avez contre Bérégovoy ?
Non, parce que Bérégovoy est le premier, dans les années 80, à avoir diminué les impôts. Il a fait passer l'impôt sur les sociétés qui était, je crois, de 50% à 45%. Ensuite, il est revenu au pouvoir et il l'a fait passer à 33%. L'impôt sur les sociétés, la course à la diminution des impôts, elle est engagée dès le milieu des années 80.
Et donc, c'est les socialistes qui l'ont entamé, ouais, d'accord.
Et donc là, qu'est-ce que vous faites cet après-midi ?
On va manifester, on fera 10 000.
Bon, bah écoutez, je vais vous laisser aller faire monter la grève générale et les barricades à partir de 14h30 devant le rectorat, quoi. Et puis moi, je vais aller faire les liens donc entre Balladur, Bérégovoy, Fabius,
Bettencourt,
Sarkozy, Woerth et ainsi de suite, et les suppressions de postes au lycée Montaigne de Lambin.
J'ai pris des engagements au nom de la France avec le Premier ministre et le gouvernement pour réduire les déficits.
Nicolas Sarkozy, 12 juillet 2010.
Tenez-vous bien, cela fait 40 ans que la France présente un budget en déficit. Eh bien, c'est plus possible. Mais la première étape, c'est 6% en 2011.
En 2011. Sur 3 ans, ça représente 100 milliards d'euros. Où est-ce qu'on trouve aujourd'hui 100 milliards d'euros à économiser sur le budget de l'État ?
Alors, premièrement, nous avons diminué le nombre de postes de fonctionnaires dans notre pays comme jamais. Nous avons supprimé 100 000 postes de fonctionnaires en 3 ans. Dans le budget 2011, nous en supprimerons encore, M. Barouin a donné les chiffres, 34 000. Il n'y a pas d'autre choix, David Pujadas.
Mais la plupart des économistes, et beaucoup aussi dans votre propre camp, disent si on veut atteindre ces objectifs, on ne peut pas le faire sans augmenter les impôts.
Eh bien, je m'y refuse totalement.
Donc là, Daniel, on est dans le hall de l'Assemblée nationale.
Devant les portails électriques, où on dépose les sacs pour voir si on n'a pas mis le poignard pour assassiner notre élu préféré. Et on vient ici parce que c'est quand même ici, à l'Assemblée nationale, que se votent les budgets, c'est-à-dire les dépenses et les recettes. Les dépenses d'éducation, de justice, de santé, d'armée. Et les recettes, les impôts, c'est ici que ça se vote tous les ans. Donc on va aller rencontrer une série de députés, puisque c'est ici quand même que se décide s'il y aura plus ou moins d'infirmières au CHU d'Amiens, plus ou moins de profs au lycée Montaigne de l'Ambre, toujours à Amiens, mais aussi à Rennes, à Nantes, à Lille, à Marseille, à Toulon, à Nice. C'est en partie ici que ça se décide. Il y a un lien très direct, mais invisible, entre ici l'Assemblée nationale, l'entrée de l'Assemblée nationale, et le lycée de l'Ambre-Montaigne à Amiens. Monsieur Gilles Carrez, on est dans votre bureau, à la Commission des Finances. Vous êtes député UMP, vous êtes rapporteur général de la Commission des Finances, et ça, pas depuis hier, mais depuis 2002. Et au printemps dernier, enfin plutôt au début de l'été, vous avez rendu un rapport qui pointait notamment toutes les baisses d'impôts intervenues depuis une dizaine d'années.
Exactement. Et moi, j'observe, en ayant étudié de façon très précise ce qui s'est passé depuis 10 ans, et donc je montre que, et sous le gouvernement Jospin, donc socialiste, à partir de 2000, et depuis 2002, si on prend toute cette période, les recettes du budget de l'État ont diminué de 100 milliards d'euros. Ça se répartit 30 à 40 milliards dans la période 2000-2002, et puis le reste depuis. Et je pose la question, est-ce qu'en face, les dépenses ont-elles diminué également de 100 milliards? Or, à l'évidence, non. Et donc, ces baisses d'impôts faites depuis 10 ans, elles ont été financées, en réalité, par le déficit.
Donc, finalement, le déficit qu'on a aujourd'hui, c'est pour l'essentiel un déficit de recettes, un déficit d'impôts, des impôts qu'on aurait baissé de l'équivalent de 100 milliards d'euros par an. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ces 100 milliards d'euros? C'est quoi, par exemple?
Il y a tout. Je vais prendre, par exemple, les baisses d'impôts de 2000, les baisses Fabius, parce qu'elles ont été considérables, plus de 15 milliards d'euros. Il y a eu baisse d'un point de la TVA, taux général. Il y a eu baisse de l'impôt sur le revenu. Il y a eu suppression d'une partie de la taxe d'habitation qui était payée aux régions. Suppression de la part salaire, c'est-à-dire un bon tiers de la taxe professionnelle, déjà à cette époque. Vous additionnez le tout, 15 milliards d'euros qui ont été décidés pratiquement en quelques jours au printemps 2000.
Pour un bon équilibre, là vous avez cité Fabius. Quand on regarde, j'ai lu votre étude, il y a un graphique et notamment il y a deux moments où on voit les impacts des baisses d'impôts sur le budget général de l'État. Il y a deux moments, donc il y a 2000-2001 et le deuxième moment fort, c'est 2006-2007.
En 2007, évidemment, il y a eu la loi TEPA. La loi TEPA avec des exonérations importantes pour les heures supplémentaires, mais il fallait bien sortir des 35 heures, donc ça coûte. Exonération de l'impôt sur le revenu, exonération de CSG au titre des heures supplémentaires. Il y a eu la baisse des droits de succession. Bon, ça s'est fait tout de suite 800 millions d'euros. Et puis, il y a eu la possibilité d'investir son ISF dans les PME.
Son impôt sur la fortune.
Voilà. Et puis, il y a eu le renforcement du bouclier fiscal, parce que contrairement à ce qu'on croit, le bouclier fiscal n'a pas été créé en 2007. Il a été créé dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu sous le gouvernement Villepin. Mais il a été renforcé. Et donc, on voit bien dans mon rapport que là, à nouveau, on a des baisses d'impôts.
Alors, il y a deux solutions. Soit on augmente les impôts, soit on baisse les dépenses.
Là, je lisais, c'est Les Échos d'aujourd'hui. Il y a une interview de l'entrepreneur milliardaire belge Albert Frère à l'intérieur. Et il parle de la dette de la France, de la dette des États. Il dit « La dette des États est la somme de 30 ans de laxisme. Il n'y a pas d'autre réponse qu'une réduction des dépenses publiques. » Donc voilà, il ne parle pas d'impôts. Albert Frère, il dit « Il n'y a pas d'autre solution qu'une réduction des dépenses publiques. » Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, c'est une économie de 500 millions d'euros par an. Si jamais il s'agissait de combler les 60, 80, 100 milliards de déficits structurels par an, ça veut dire que c'est une suppression de fonctionnaires par million là qu'il faudrait.
Dire que la seule issue, c'est de diminuer les dépenses publiques, c'est projeter un modèle de société qui n'est pas forcément celui dont nous voulons. Quand on est milliardaire, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'aller au bureau d'aide sociale de la mairie pour avoir un coup de main pour payer sa facture d'électricité.
Ou sa facture de gaz, puisqu'il est actionnaire de GDF Suez, dont les dividendes ont largement augmenté, comme les frais de facture.
La société, pour fonctionner de façon harmonieuse, elle a besoin de charges communes, de dépenses. Et c'est comme ça depuis qu'il y a des sociétés organisées. Et face à ces charges communes qui font le bien-être de chacun, la sécurité, aujourd'hui la santé, face à ces charges, l'éducation, la justice, face à ces charges, il faut des recettes. Et dire que le problème des finances publiques ne peut se traiter qu'en réduction de dépenses, je conteste complètement cette analyse, complètement. Il y a des modèles de société, comme par exemple en Europe, où la dépense publique est très importante, parce qu'on estime que la collectivité publique doit prendre en charge beaucoup de choses. Mais faire comme Albert Frère l'a diminué à 35 ou 40, c'est un autre modèle de société dont nous ne voulons pas.
Voilà, Gilles Carré, UMP, rapporteur de la Commission des Finances et rapporteur de ce texte qui a éclairé quand même de façon assez forte la question du déficit du budget de l'État. Puisque ces 100 milliards, vous avez compris, sont dus à ces baisses d'impôts qui ne sont pas le monopole exclusif de la droite. C'est un homme de droite qui nous parlait, UMP. Voici un homme de gauche avec son point de vue à lui bien particulier, Henri Emmanuelli.
Monsieur Henri Emmanuelli, on est dans votre bureau. Pour parler des impôts, on n'est pas venu vous voir par hasard puisque vous avez été ministre chargé du budget, ou plus exactement secrétaire d'État chargé du budget entre 1983 et 1986, président de la commission des finances régulièrement en 91, 92, 97, 98, entre 2000 et 2002, donc c'est pas par hasard qu'on vient vous voir pour parler des impôts. Bêtement, moi le raisonnement, si je viens parler des impôts, c'est que depuis des années, on entend qu'il y a des déficits, qu'il faut réduire les dépenses, donc les postes d'infirmiers, d'enseignants, qu'il faut supprimer 34 000 emplois de fonctionnaires cette année, ainsi de suite. Et on se dit, il y a deux solutions dans ce cas-là. Soit c'est on diminue les dépenses, c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment, soit on augmente les recettes, donc on augmente les impôts.
Alors si on fait un peu de rétrospective, j'irai jusqu'à l'année 2000. Alors, on est en 2010, donc sur les 10 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Il s'est passé en réalité qu'entre la gauche et la droite, parce que c'est la gauche qui avait commencé, on a réduit très sérieusement les recettes. Les recettes. On a supprimé à peu près 300 milliards de francs. Et vous constaterez que ça correspondait au déficit chronique que le budget enregistrait en période normale depuis 2002 jusqu'à la crise, disons. Parce qu'on était déjà en déficit de 48, 50 milliards d'euros. On ne dit jamais aux Français, oui, il y a un déficit budgétaire, parce que en réalité, on a supprimé 300 milliards de francs. Alors, rien que la gauche, souvenez-vous, la vignette disparue, 12 milliards de francs. La base salaire dans la taxe professionnelle, 75 milliards de francs à l'époque. C'est-à-dire, rien qu'entre ces deux mesures, on est quasiment à 100 milliards. Après, on a touché à l'impôt sur revenu. Souvenez-vous, c'est l'époque où, y compris des socialistes, font des tribunes libres pour dire faut baisser les impôts ou on va être battu aux élections, quoi. On les a baissés, vous avez vu comment on a été élus, quoi.
Là, j'ai une citation de Laurent Fabius, dans Le Monde, le 1er septembre 2000. Eh oui. « Je présenterai un plan d'allègement et de réforme des impôts qui sera le plus ample des 50 dernières années. »
Voilà, c'est de ça que je parlais. Et de quelques autres. parce qu'il n'était pas tout seul, hein, c'était la mode, Tony Blair, les socialistes espagnols, tout le monde était, n'est-ce pas? Puis la droite est arrivée et elle a continué massivement. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est pas un mystère, c'est pas un mystigri. Bon, alors on va me dire, oui, mais il n'y avait qu'à supprimer des dépenses. Aujourd'hui, on est dans une situation loufoque. Je vais prendre là aussi un exemple qui parle. Monsieur Woerth est venu l'année dernière, il s'est vanté à la tribune de l'Assemblée nationale en présentant le budget, il nous a dit, voilà, entre le budget 2008, le budget 2009 et le budget 2010, j'aurais supprimé 100 000 emplois dans la fonction publique, dont 50 000 dans l'éducation nationale. 10 000 chez les policiers, ce qu'il oublie de dire, etc. Et puis, c'est un exploit parce que ça va nous permettre d'économiser 500 millions d'euros. Moi, je suis monté à la tribune derrière, je lui ai dit, écoutez, j'ai l'impression de rêver, là. Parce que vous nous expliquez que vous avez supprimé 100 000 emplois dans la fonction publique pour faire 500 millions d'euros d'économie, et puis vous avez dépensé 3 milliards d'euros pour la TVA des restaurateurs. Donc, le bilan, c'est moins 2,5 milliards d'euros. Donc, non seulement vous avez aggravé le chômage, mais en plus, vous nous avez collé des déficits supplémentaires. Et vous nous dites, c'est un exploit. J'ai essayé d'expliquer ça dans la presse un peu partout, ça ne ressort pas. C'est absent. Bon, rien que cet exemple-là. L'amendement Copé, c'était quoi l'amendement Copé en 2007? C'était un amendement qui constituait à dire, les grandes sociétés qui vendront des filiales, elles ne paieront plus de ce qu'on appelle les plus-values, c'est-à-dire d'impôts sur les ventes, sur la vente. Il nous avait dit que ça coûterait 1,5 milliard d'euros. Ça a coûté 20 milliards d'euros en 2 ans.
Donc 10 milliards d'euros par an?
Ah ben oui, à peu près 10 milliards d'euros en moyenne par an. Les bénéficiaires ont été les sociétés du CAC 40 à plus de 80%. Donc quand on nous dit après, il n'y a pas d'argent, on ne sait pas comment faire. Mais si, on sait comment faire.
Là, j'ai fait, parce que 10 milliards d'euros, vous savez, pour moi, c'est 10 et puis il y a 9 zéros derrière, mais oui. Ça ne représente pas grand-chose.
Oui, mais c'est les finances publiques.
Ouais. Ça. J'ai converti en poste d'infirmière à chaque fois.
Oui.
10 milliards d'euros en poste d'infirmière, vous savez?
Ouah, c'est plus de 500 000, puisque 100 000 emplois dans la fonction publique, c'est 500 millions d'euros par an. Alors 10 milliards d'euros...
Moi, j'ai calculé 300 000 à peu près.
Oh, oui, plus que ça, à mon avis. Hein. C'est l'amendement Copé à lui tout seul, oui, il coûte plus cher que 300 000 infirmières, oui.
C'est passé discrètement?
Absolument.
C'est technique, enfin, on n'y comprend
discrètement,
rien.
Discrètement, c'est là qu'on a un vrai problème, vous et nous, si j'ose dire, hein. C'est pas passé discrètement, il n'y a pas eu un budget, il n'y a pas eu un collectif, on n'a pas mis ça sur la table. Mais, comme plus personne ne suit les travaux à l'Assemblée nationale, eh ben, c'est passé à l'as, quoi.
Ouais, l'équivalent de 300 000 postes d'infirmières supprimés.
Et encore, à mon avis, je pense que vous êtes en dessous.
Vincent Benassal, bonjour.
Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger.
Je vous en prie.
Est-ce que je pourrais avoir le bureau de monsieur Copé, s'il vous plaît, Jean-François Copé?
Oui.
Monsieur Copé, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je fais un sujet sur la fiscalité.
Mmh.
Et j'aurais voulu poser une question à monsieur Copé.
Alors, je vais surtout vous donner les coordonnées de son service de presse.
Ok, je vous remercie.
Je vous en prie, monsieur.
Au revoir.
Service presse UMP.
Oui, bon, je suis bien au service de presse de monsieur Copé.
Oui, tout à fait.
Oui. J'aurais bien voulu poser une question ou par votre biais à monsieur Copé, avoir une réponse.
Alors, pour ça, il faut envoyer un mail à son attaché de presse.
Ok, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Au revoir. Bon, ben, j'écris aussitôt le mail à monsieur Copé. Voilà, comment j'ai écrit. Dans la case objet, j'ai mis des regrets, point d'interrogation. Reporter à France Inter préparant une émission sur les impôts, je fais suite à notre conversation téléphonique. Au cours de mes brèves recherches, j'ai découvert que 1. M. Copé, alors ministre du budget, avait coproduit une niche fiscale sur les plevalisations. 2. Cette dépense fiscale devait ne coûter que 1,5 milliard d'euros par an. Elle revient en fait autour de 10 milliards d'euros. 3. M. Copé a souhaité imposer fiscalement les indemnités versées lors des accidents du travail. Ouais, parce que Jean-François Copé a décidé qu'il fallait imposer fiscalement les accidents du travail. Et l'élimination de cette niche, puisque c'est lui qui appelait ça une niche, hein, c'est un privilège de pas voir ces indemnités d'accident du travail défiscalisées. Là, c'est une niche et c'est un privilège. L'élimination de cette niche
devait économiser 150 millions d'euros par an. Donc on a bien dit 10 milliards pour les plus-values de cession qu'on offre aux entreprises, 150 millions qu'on reprend aux salariés. Donc je pose la question ensuite. D'un côté, donc, on épargne 150 millions sur les salariés victimes d'accidents du travail. De l'autre côté, on dépense 10 milliards, donc 60 fois plus. Hein, 60, on donne 60 fois plus aux entreprises qu'on ne reprend aux salariés. N'y a-t-il pas là une injustice évidente? Deux poids, deux mesures. Monsieur Copé regrette-t-il ses choix? Entre parenthèses, tout le monde peut se tromper et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous remercie d'avance pour votre réponse, François Ruffin. Bon, et je donne mon numéro de portable. Donc je pense que le service de presse de Monsieur Copé va nous répondre rapidement pour nous dire si oui ou non c'est une injustice de donner 10 milliards aux entreprises tandis qu'on reprend 150 millions aux salariés. Donc je vais attendre ce coup de fil du service de presse de Jean-François Copé. Prenez mon portable en attendant qu'il sonne. Mais alors, vous avez protesté, monsieur Henri Emmanuelli, parce que vous ne payez pas assez d'impôts.
Et non. J'ai protesté parce que, avec le système des niches fiscales, il y a beaucoup de cadres moyens qui ne paient plus d'impôts sur le revenu. Aujourd'hui, si vous avez une femme de ménage bien payée, c'est-à-dire on l'a payée normalement, ce qui est mon cas, quand vous faites votre feuille de paye, vous apercevez que vous n'avez plus d'impôt sur le revenu. Donc moi, je vois arriver une feuille d'impôt où j'ai normalement 8000 euros d'impôt sur le revenu. Et puis grâce aux niches fiscales, il y a zéro. Alors on me dit, c'est parce que vous êtes député. Mais non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois député. N'importe quel cadre français qui est dans la même situation, il a les mêmes avantages. Et donc, on arrive à cette situation aberrante où moi, je n'ai pas d'impôt sur le revenu, mais où les gens qui travaillent pour moi, eux, en payent.
Ah, vous montrez le bureau d'à côté. Le bureau d'à côté, il y a votre chauffeur.
Il y a la secrétaire, il y a le chauffeur, qui est un chauffeur de l'Assemblée nationale, qui paie des impôts, lui, la secrétaire, qui paie des impôts, qui a deux enfants. Et moi, j'en paie pas parce que, quand on a les moyens dans ce pays de se payer des services, et qu'une partie de ces services est déductible de l'impôt sur le revenu, ben en fait, c'est l'État qui vous fait cadeau de la moitié, quoi. Voilà. Et ça, c'est aberrant.
Là où il y a une nouvelle injustice, c'est que les sociétés du CAC 40, sur l'impôt sur les sociétés, sont à peu près trois fois moins taxées que les PME.
Oui.
Elles payent l'impôt sur les sociétés à hauteur de 8% pour les sociétés du CAC 40. Oui. Les PME, qui déjà sont souvent des sous-traitants des grosses boîtes...
Parce que les grandes entreprises, aujourd'hui, à l'intérieur du marché unique européen, ou grâce à ce qu'on appelle les centres financiers offshore, c'est-à-dire les paradis fiscaux, pratique ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce mot compliqué? Ça veut dire que quand on a les moyens de se payer des gens très pointus, très costauds, qui vous expliquent comment il faut faire pour payer le moins possible d'impôts, ben vous y arrivez, quoi.
C'est-à-dire en allant placer...
Ils vont placer la holding en Hollande, parce qu'en Hollande, il n'y a pas d'impôt sur les holdings. Donc on fera remonter tous les bénéfices sur la holding. On se débrouillera pour que ce qui est gagné en France soit remonté comptablement sur la holding en Hollande. Et à ce moment-là, on paye pas d'impôts, quoi.
Ce que le pont Bleisinger peut pas faire, s'il monte sa holding en Hollande, ça va être compliqué pour lui.
Bien sûr que non, il sait pas faire, il peut pas faire, il a pas les moyens, donc il le fera pas. Pas plus que le patron de PME qui a autre chose à faire et qui n'a pas les moyens de se payer un cabinet comptable.
Et lui, il payera 24% d'impôt sur les sociétés.
Voilà. C'est pareil pour l'impôt sur le revenu, là. C'est-à-dire les personnes physiques. Si vous savez faire, si vous avez les bons conseils, vous paierez beaucoup moins que celui qui n'est pas informé, quoi.
C'est comme s'il y avait un chantage permanent qui s'exerçait, à savoir, si vous nous embêtez, bon, on a tout...
ailleurs. Et c'est effectivement le cas. Une société peut réunir son conseil d'administration et décider en 10 minutes qu'elle change son siège social de place. Il était à Paris, elle le met à Amsterdam.
Bienvenue au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Ne quittez pas, nous allons vous répondre dans un instant.
Allô ?
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis reporter pour France Inter.
Oui.
Et j'ai découvert dans la presse, dans Le Monde, qu'en matière d'impôts sur les sociétés, les entreprises du CAC 40 étaient taxées à hauteur de 8%, tandis que les PME l'étaient à hauteur de 30%, c'est-à-dire quasiment 4 fois plus. Et je trouvais ça pas très juste. Et je voulais savoir ce qu'en pensait le ministre de l'Industrie, qui doit être un peu le ministre à la fois des industries du CAC 40 et des PME, quoi.
les PME, c'est plutôt Monsieur Novelli.
Ah, c'est Monsieur Novelli.
Ah, les PME, c'est Monsieur Novelli.
D'accord. Quel est le numéro alors ?
Je l'ai pas dans l'organigramme, mais je vais vous la transférer si vous voulez.
Très bien, très bien.
Ne quittez pas, Monsieur.
Merci.
Je vous en prie. Allô, oui, bonjour.
Alors, je suis François Ruffin, je travaille pour France Inter. J'ai découvert que, concernant l'impôt sur les sociétés, les entreprises du CAC 40 étaient taxées à hauteur de 8% sur leurs bénéfices, tandis que les PME l'étaient à hauteur de 30%, c'est-à-dire 4 fois plus, presque 4 fois plus. Je trouve que c'est pas très juste. Et ben, je voulais savoir ce qu'en pensait Monsieur Novelli.
D'accord. Je vais prendre vos coordonnées et on vous rappellera, monsieur.
Je vous remercie bien.
Donc, vous faites un reportage donc sur les taxes.
Sur les impôts en général.
Les impôts en général, d'accord.
Et donc, bah, j'ai vu qu'il y avait une injustice à l'égard des PME, des artisans et on va dire du favoritisme pour les grosses entreprises du CAC 40, quoi. Et donc, je voulais savoir ce qu'en pensait monsieur Novelli, quoi.
D'accord. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Je voudrais qu'on adresse des excuses à tous ces standardistes qui sont harcelés par ce reporter entêté qu'est François Ruffin et qu'on retrouve avec Henri Emmanuelli.
Vous étiez député dans les années 70 ?
Non, 78, moi, comme les années 80, oui.
Parce que quand on regarde, j'ai regardé sur l'INA les débats sur l'impôt sur les successions, enfin les idées d'impôt sur la fortune qui existent à ce moment-là. Ce qui est marrant, c'est qu'on a la gauche qui réclame ces impôts-là. Et une fraction de la droite qui embête le gouvernement Barre. Il y a un monsieur qui s'appelle Didier Bariani qui va devenir un responsable de l'UDF, qui n'est pas un mec particulièrement progressiste. Un mec comme Michel Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur, pareil, et qui se positionne, eux, à ce moment-là, pour davantage d'impôts, notamment sur les successions, éventuellement sur la fortune. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans les années 70, le vent souffle dans le dos des progressistes.
Les premiers impôts sur les plus-values. C'est quoi une plus-value ? C'est vous achetez un truc 100, vous le revendez après, 10 ans après, vous le revendez 1000, quoi. C'est ce que Mitterrand appelait gagner de l'argent en dormant. C'est vrai pour les terrains, c'est vrai pour... Le premier qui met des impôts sur les plus-values, c'est Giscard d'Estaing, en 76. Effectivement, à l'époque, il cherche de l'argent. Pourquoi ? Parce que le chômage monte et que le déficit des finances publiques devient fort. Et donc, il cherche des ressources et ils sont plutôt, comme il n'y a quasiment pas d'impôts sur le patrimoine, il se dit, là, il y a de la marge.
Et on a l'impression que le vent, le souffle, va s'inverser dans les années 80. Là, bah avec Reagan, avec Thatcher et ainsi de suite, le souffle, il va aller contre les impôts directs, contre les impôts progressifs, contre les progressistes, quoi. Parce qu'en 85, alors que vous êtes ministre du budget, se produit, en tout cas sur l'impôt sur les sociétés, la première baisse de l'impôt sur les sociétés. Avec Pierre-Péry Gauvois, on passe de 50%. À 45% d'impôt sur les sociétés.
Oui, parce qu'on est dans une harmonisation européenne. On a un marché unique. Donc si vous dites en France, vous vous faites payer 50 et qu'en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne, et partout c'est 30, ben les gens ils vont aller faire leurs investissements là où c'est le moins cher. Ce qu'on a appelé la concurrence fiscale. Vous avez des pays européens, par exemple, sur l'épargne, ils baissent. Notre épargne fout le camp au Luxembourg. Aujourd'hui, les grands gagnants, c'est les actionnaires. Regardez les bénéfices du CAC 40 encore cette année, quoi. Hein. Ça recommence, quoi. C'est les milliards d'euros. On est à 40 et quelques milliards d'euros pour le premier semestre.
Hein. Moralité, mieux vaut actionnaire que prolétaire. On continue demain. Vous vous en doutez, on n'a pas fini avec cette histoire d'impôts et de fiscalité juste ou pas. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Gilles Carrez, merci à Henri Emmanuelli, merci à Didier, Corinne et au prof du lycée Montaigne à Amiens. Et puis notez le nouveau livre de Vincent Drezet et de Lee Mangkok, « Il faut faire payer les riches », qui paraîtra le 21 octobre 2010 aux éditions du Seuil. C'est un très bon titre, « Il faut faire payer les riches ». Et puis, par ailleurs, l'enregistrement autour du monde diplomatique, ce soir, c'est complet, mais vous pourrez écouter notre émission mensuelle avec le monde diplomatique lundi prochain sur France Inter. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis ». Vous retrouverez aussi cette émission sur là-bas.org, là
radio-bas.org avec des vidéos de nos récents exploits. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Florent Layani, Koye Nguyen et Franck Adherer ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée d'Agnès Le Bot et Marina Touillez. Quant à elle, attend vos messages au répondeur de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Bonjour, Emmanuel de Tabac Info Service.
Oui, bonjour, je vous appelle parce que je fume près d'un paquet par jour et je me demandais s'il y avait des risques pour mon mari qui ne fume pas.
Ah oui, vous augmentez de 25% son risque d'avoir un cancer du poumon. C'est peut-être une bonne raison pour arrêter.
Oui, ben, j'ai déjà essayé, mais j'y suis jamais arrivée en fait.
Oui, mais si vous n'avez pas réussi avant, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez jamais.
Ah oui, c'est vrai.
Vous voulez arrêter de fumer ? Appelez Tabac Info Service au 39 89 et bénéficiez des conseils personnalisés d'un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé. 15 centimes la minute.
Moi, je suis boulanger et j'aime bien pétrir mes idées.
Je suis fleuriste et j'ai des choses à dire autrement qu'en langage des fleurs.
Je suis dans l'énergie solaire et de l'énergie, j'en ai à revendre pour protéger mes intérêts.
Ensemble, nous sommes la première entreprise de France. Voilà pourquoi nous voterons pour les représentants locaux et nationaux qui défendent notre passion et nos intérêts. Lors des prochaines élections aux chambres de métiers et de l'artisanat, du 28 septembre au 13 octobre 2010, vous aussi, votez. Chambre de métiers et de l'artisanat, agir pour réussir.
MAF Assurance, bonjour.
Quige, la MAF offre une réduction sur la première cotisation santé égale à deux fois l'âge de l'assuré.
Eh oui, à partir de 50 ans, moins 100 euros, 60 ans, 120 euros, etc.
Miss MAF, avec vous, le temps c'est de l'argent. C'est valable aussi pour les professionnels?
Bien sûr, depuis toujours, MAF assure la santé des particuliers et des professionnels.
Miss MAF, aujourd'hui je suis heureux d'avoir mon âge.
Pour votre assurance santé, la référence qualité-prix,
c'est la MAF.
Offre valable jusqu'au 31 octobre 2010. Conditions au 0800 130 131. Appel gratuit depuis un poste fixe, surcoût selon opérateur.
France Inter présente Aloe Black, Good Things.
I need you, dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Well, I need you, dollar, 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 that's what I need. Come on, share your dollar with me.
Retrouvez Aloe Black dans le programme musical de France Inter.
France Inter, où il est 16h pile poil. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
La Commission européenne ouvre une procédure d'infraction contre la France pour non-respect de la législation européenne sur la libre circulation. En jeu, la politique d'expulsion des Roms vers la Roumanie et la Bulgarie. La France va recevoir une mise en demeure. Elle aura jusqu'au 15 octobre pour se mettre en conformité avec la loi européenne. Piqué devant les usines, file d'attente aux arrêts de bus, kiosques vides. L'Espagne vit au ralenti en cette première grève générale depuis l'arrivée du socialiste José Luis Zapatero au pouvoir. Une journée d'action dans le cadre de la journée de mobilisation européenne contre les politiques publiques d'austérité. À Bruxelles, des dizaines de milliers de personnes défilent cet après-midi entre la gare du Midi et le quartier des institutions européennes. La France entre en cure d'austérité. Le projet de budget pour 2011 vise une réduction historique des déficits publics. Actuellement à 7,7% du PIB, le déficit doit passer à 6% en 2011 pour arriver à 3% en 2013. Plus de 31 000 postes de fonctionnaires ne seront pas remplacés. Du côté des recettes, la réduction des niches fiscales et sociales devrait rapporter 9,4 milliards d'euros. Les 12 points du permis de conduire pourraient bientôt être récupérés au bout d'un délai de 2 ans contre 3 actuellement. C'est ce que vient de décider l'Assemblée nationale par un amendement adopté en commission et qui doit encore être voté en séance publique. Le Sénat avait voté le passage de ce délai à 1 an dans le cadre du projet de loi sur la sécurité, un assouplissement décidé contre l'avis du gouvernement. Le blocage du siège de Lejabi à Rieux-la-Pape près de Lyon est levé. Un accord a été trouvé entre la direction et les syndicats de l'entreprise de lingerie. Un plan social qui prévoit la suppression de 197 postes et la fermeture de 3 usines en Rhône-Alpes est en cours. L'accord prévoit une indemnité de licenciement de 15 000 euros par personne, plus 600 euros par année d'ancienneté. Un homme de 43 ans a été arrêté à Barcelone pour financement présumé d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il est soupçonné d'avoir envoyé de l'argent en Algérie pour les cellules de l'ACMI au Sahel. Je vous rappelle que l'ACMI a revendiqué l'enlèvement de 5 Français et 2 Africains employés d'Areva au Niger. Silvio Berlusconi demande la fin des querelles qui divisent sa coalition gouvernementale. La responsabilité de son gouvernement est engagée devant la Chambre des députés qui doit voter dans la soirée. Mais il ne risque a priori pas la chute puisqu'il a reçu le soutien de principe des dissidents de sa majorité. Dans un discours de consensus, Silvio Berlusconi a multiplié les gestes d'apaisement, notamment envers les députés qui ont rallié le camp de Gianfranco Fini, son ex-allié. Les banques alimentaires lancent un appel à la générosité des Français. Elles recherchent non pas de l'argent, mais plus de 1000 bénévoles à travers la France. Les banques alimentaires collectent, gèrent et distribuent des denrées alimentaires destinées aux pauvres. La demande d'aide alimentaire est en accroissement constant en France.
France Inter et la MC 93 à Bobigny présentent, du 1er au 24 octobre, La Tempête de Shakespeare dans une mise en scène de Georges Lavaudant. Il réunit La Tempête et le Songe, ces deux pièces merveilleuses, les fait danser ensemble pour en tirer un poème à la gloire du théâtre, de sa magie et de ses joies. Retrouvez La Tempête dans les émissions de France Inter.
France Inter. France Inter. La différence.
16h03 et c'est déjà l'heure de Frédéric Ledéon pour Carrefour de Ledéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et salutations aux amis grenoblois qui nous ont accueillis si chaleureusement et qui étaient si nombreux hier pour l'émission. Et écoutez, on va continuer, toujours la musique, la grande aventure de la musique avec une parution sympathique comme tout en ce qui concerne le sujet Emmanuel Chabrier, compositeur, pianiste, et puis celui qui l'interprète, Emmanuel Strausser, qui est un merveilleux personnage, très cultivé, musicien jusqu'au bout des ongles, et ça pour un pianiste évidemment ça n'est jamais de trop. Et par contre, Chabrier était décrit comme quelqu'un qui avait les doigts un peu trop gros, qui avait une certaine gaucherie dans l'attitude et qui savait cependant atteindre un excès de finesse, je cite, et un maximum d'expression que bien peu de grands pianistes, excepté peut-être Liszt et Rubinstein, ont dépassé. Ça, c'était Vincent d'Indy, le compositeur sévère qui avait dit ça. Et à part ça, on sait que c'était un plaisantin, amoureux de bonne chère, amoureux de peinture surtout, encore peut-être plus caractéristique. Et Francis Poulenc, dont on va entendre un peu de musique tout à l'heure, a dit la musique de Chabrier est un trésor qu'on n'épuise jamais. Voici un tourbillon tiré des 10 pièces pittoresques d'Emmanuel Chabrier. Tourbillon tiré des 10 pièces pittoresques d'Emmanuel Chabrier dans le nouvel enregistrement d'Emmanuel Strausser. On sait que Chabrier est un personnage un peu inclassable, qui a été bureaucrate, comme il l'a dit lui-même, et qui a changé de profession en découvrant Wagner, et puis aussi en étant engagé comme assistant au nouveau concert de Charles Lamoureux. Et ça l'a encouragé à se consacrer tardivement à la seule musique après des études de droit, et puis cette carrière au ministère de l'Intérieur, où il était chargé de l'ampliation des copies. Et il va abandonner ce poste un peu tard, en 1880, et il a dit « je me suis fabriqué à peu près tout seul ». Et un jour, Benjamin Alain Godard, un compositeur à l'époque assez apprécié, qu'on moque un petit peu aujourd'hui, lui a dit « Ah, quel dommage, mon cher Chabrier, que vous soyez arrivé si tard à la musique !» Et l'autre, qui savait se défendre, a répondu « Mon cher Godard, quel dommage que vous soyez arrivé si tôt !» Voilà, et pan pour tes dents. Et c'est comme ça qu'on a des pièces tout à fait savoureuses, charmantes, il n'y avait pas besoin de commencer plus tôt que ça, à mon avis. Et je vous propose un autre exemplaire des 10 pièces pittoresques, Scherzo, valse.